Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service de ce jour. Merci à vous tous qui nous écoutez à travers la République. Vous êtes dans votre bureau, à la maison, dans votre véhicule ou ailleurs. Merci de rester fidèles à Okapi Service, à Radio Okapi, à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Comment promouvoir l'allaitement maternel en République démocratique du Congo? Nous avons dans ces studios Madame Marie-Ludvine Mbala, spécialiste en nutrition à l'UNICEF. Madame Marie-Ludvine, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, elle n'est pas seule. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Damien Sabouni, chef des divisions de la communication au programme national de nutrition. Monsieur Damien Sabouni, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous dans cette émission au Okapi Service. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 081-82-82-827. 081-82-82-827. Debs Vita sur la mise en onde. Naomi Moutouki coordonne et réalise cette émission. Patrick Yassongwa sur la retransmission live sur les plateformes digitales des radios Okapi. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, la République démocratique du Congo célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel du 22 au 28 août sous le thème « Prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durables ». Cette célébration intervient dans un contexte de défis nutritionnels majeurs, notamment du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, l'insécurité alimentaire chronique, l'anémie chez les femmes enceintes et les enfants. Selon les experts, l'allaitement maternel joue un rôle crucial dans la préservation de notre environnement, dans la promotion de la santé, du bien-être de la mère et de l'enfant. Alors comment promouvoir l'allaitement maternel comme pilier de la santé infantile et de la résilience climatique? On en parle à présent avec nos invités. Nous avons dans ce studio Madame Marie-Ludvine Mbala, spécialiste en nutrition à l'UNICEF. Madame Marie-Ludvine, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. La première question est de savoir, la RDC célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement. Pourquoi cette semaine a été instituée?
La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui est une semaine, comme on le dit, mondiale, qui célèbre le sort de la planète, elle a été instituée en fait pour amener les gouvernements et toutes les institutions à encourager et à promouvoir et surtout à protéger l'allaitement, de façon à ce que le maximum possible de bébés qui viennent au monde puissent bénéficier d'un bon départ dans la vie et aussi de maximiser leurs chances de survie dans les premiers moments de cette vie-là.
Mmh. Donc, pendant cette semaine, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui est prévu?
Ok. Chaque année, la Semaine mondiale se focalise sur une thématique assez précise. Mmh. L'idée étant que d'année en année, différents acteurs au niveau mondial sont impliqués. Et cette année, l'accent a été mis dans le monde entier sur la priorisation des réseaux de soutien durable. Nous avons mis un accent en RDC sur les questions de climat, parce que c'est une question qui est cruciale à la fois pour le pays, qui est l'un des poumons de l'Afrique en termes de forêt, et aussi dans le monde entier. Donc, l'allaitement, cette année, c'est de voir quel est l'impact, plutôt du non-allaitement, sur l'environnement. En matière de production d'aliments pour enfants, qu'est-ce que ça peut produire comme déchets, mais aussi la nutrition, l'alimentation même de l'enfant avec ces produits-là génère énormément de déchets qui souvent finissent dans la nature et qui ne sont pas particulièrement biodégradables. Donc c'est pour sensibiliser les populations au fait qu'allaiter un enfant ne génère pas de déchets en fait. En plus des avantages que nous connaissons déjà sur la santé de l'enfant, sur la santé de la mère, on met davantage l'accent cette année sur la préservation de notre habitat pour permettre à davantage d'enfants dans les générations futures de profiter d'une planète en bonne santé, on va dire.
Bien, alors je vais poser la question à Monsieur Damien Sabouni, qui est chef de division chargé de la communication au PRONANUT, Programme National de Nutrition. Alors, la première question est de savoir quel état des lieux vous faites de la nutrition ou de l'allaitement dans notre pays aujourd'hui.
Il est vrai que notre pays connaît des problèmes nutritionnels à plusieurs niveaux. Et la malnutrition fait partie des problèmes de santé publique aujourd'hui en RDC. Il y a la malnutrition chronique qui a atteint, selon la dernière enquête de nutrition, 47,9% d'enfants de moins de 5 ans font la malnutrition chronique dans ce pays. Ce qui fait que c'est presque un enfant sur deux. Mais pour ce qui est de l'allaitement, il est vrai qu'il y a déjà des efforts. Parce qu'aujourd'hui, autour de 6 enfants sur 10 bénéficient de l'allaitement maternel exclusif. Mais nous voulons aller jusqu'à 80%. C'est ça notre idéal. Mais il y a encore des enfants, quand nous disons 6 sur 10, ça veut dire qu'il y a encore 4 enfants qui ne bénéficient pas de l'allaitement maternel exclusif. Or, tous les enfants devaient en bénéficier puisque c'est un droit. Alors, en RDC, l'allaitement maternel a encore un problème, donc nous devons encore nous battre pour que nous puissions couvrir tous les enfants qui naissent en RDC et qui bénéficient de l'allaitement maternel exclusif et continuer l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans pour avoir ce qu'on appelle l'allaitement maternel optimal qui commence par la mise au sein dans l'heure qui suit l'accouchement, l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois et l'allaitement continue entre 6 et 23 mois en ajoutant d'autres aliments. Ce qui fait qu'en RDC, c'est vrai, la malnutrition pose problème, mais au niveau de l'allaitement, nous sommes en train de progresser avec nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement l'UNICEF. On est en train de progresser avec des sensibilisations pour aider les mamans à allaiter les enfants. Et ça, c'est déjà un grand pas. Nous sommes en train d'encourager tout le monde dans ce combat pour aller vers l'allaitement maternel
exclusif.
Exclusif, c'est pendant les 6 premiers mois.
6 premiers mois.
Oui.
Et puis optimal.
Après, optimal, mais il faut aller au-delà même de 6 mois jusqu'à 23 mois. Mais là, on ajoute d'autres aliments à partir des 6 mois, ce qu'on appelle l'alimentation des compléments adéquate.
D'accord.
Pour aider l'enfant à grandir d'une façon harmonieuse.
Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Madame Marie Lidvine, dites-nous, quelle est l'importance de l'allaitement maternel? Qu'est-ce que l'allaitement apporte au bébé? Pourquoi ne pas donner autre chose à l'enfant pendant les 6 premiers mois de sa vie?
Alors, c'est une question à laquelle on peut répondre pendant toute une journée.
D'accord.
L'intérêt ou les bénéfices de l'allaitement maternel pour le bébé. Déjà, je vais aller au-delà de l'intérêt évident qui est de nourrir un enfant. Il faut savoir que je prends l'analogie d'un adulte qui arrive dans un nouvel emploi. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas l'endroit, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas s'il fait très froid et tout. C'est exactement ça qu'un bébé arrive dans ce monde, en fait. Il ne connaît rien. La chose la plus familière, c'est sa mère. Parce que sa mère, il vit dans elle, il la connaît, il connaît son
odeur. C'est elle qui l'a apporté pendant 9 mois.
Exactement. Il connaît sa chaleur, donc il connaît sa voix. Et du coup, avoir cette femme, cette chaleur, au plus près de lui, déjà, dès le départ, ça rassure. Ça rassure l'enfant. Et au-delà de ça, ça contribue à lui apporter aussi la chaleur. C'est pourquoi on a des techniques qu'on va avoir, comme la méthode kangourou, pour favoriser chez les enfants qui sont très petits ce contact peau à peau entre la mère et l'enfant. Mmh. Donc ça, c'est la première des choses. Avant même qu'il ne soit au sein, il est déjà en contact d'abord avec sa mère. Donc il lui apporte cette chaleur. Et maintenant, il va téter. Donc sa maman va l'allaiter. Et donc, l'allaitement va conférer à l'enfant maintenant, comme on l'a dit, dans le ministre, le directeur de cabinet du ministre l'a dit dans son allocution, c'est le premier vaccin. Il va recevoir ce premier lait qu'on appelle colostrum, qui est très riche en anticorps. Justement, pourquoi ? Parce qu'à la naissance, l'enfant est fragile. Donc, il a besoin d'anticorps pour faire face à toutes ces nouvelles choses dans son environnement.
Tout à fait, à son environnement.
Voilà. Mmh. Donc, il y a déjà ça et l'aspect nutritif. On le dit, on ne le redira jamais assez, le lait maternel contient absolument tous les micronutriments dont le bébé a besoin au moment de sa naissance et aussi jusqu'à 6 mois. À savoir que le lait de femme évolue avec l'âge d'un bébé. Il est très riche en anticorps à la naissance et après il va s'enrichir en d'autres composés plus nutritifs pour permettre à l'enfant de grandir. Dans les 3 premiers mois, l'enfant en général double de volume de poids. Donc s'il est né avec 3 kilos, normalement il a 6 kilos après 3 mois.
Oui.
Donc vous voyez, il a besoin de nutriments, il a besoin d'éléments nutritifs pour pouvoir grandir. Et le lait de sa mère lui pourvoit à tous ces besoins-là. Donc le lait de femme va contribuer, comme je l'ai dit, à protéger l'enfant, à le rassurer, à le nourrir et à l'aider à grandir. De plus, dans le lait de femme, on a des constituants qu'on ne synthétise pas et qu'on ne pourra pas retrouver dans le meilleur des laits artificiels.
Comme
par exemple la taurine. C'est une des protéines du lait de femme qui contribue à maturer le cerveau de l'enfant, par exemple. Et la recherche l'a prouvé, l'évolution du QI humain est corrélée à la durée de l'allaitement. Donc,
le quotient intellectuel de l'enfant, c'est ça?
Voilà. Et de l'être humain adulte après, est corrélée à la durée d'exposition à l'allaitement par sa mère. Voilà. Donc c'est autant de facteurs à la fois lorsqu'on est bébé et aussi quand on grandit. À savoir que aussi les bébés qui ont été allaités ont moins de chances, moins de risques, je vais dire, de développer des maladies cardiovasculaires, obésité, les maladies métaboliques, quand ils vont devenir adultes. Donc si je peux juste me limiter à ces bénéfices pour l'individu qui a bénéficié de l'allaitement, je pourrais dire ça.
D'accord. Monsieur Damien Sabouni, souvent les mamans disent, mais moi, naïfois, mais la maille, l'enfant doit boire de l'eau, c'est un être humain, pourquoi ne pas donner de l'eau à l'enfant et lui donner exclusivement le lait maternel pendant les 6 premiers mois de sa vie?
Ok. C'est une question que beaucoup de mamans se posent durant les 6 premiers mois.
Oui.
Et on s'est dit, bon, même nous, les adultes, après avoir mangé, on prend de l'eau.
On prend de l'eau, bien sûr.
Lui aussi, après avoir pris le lait, il peut ajouter de l'eau.
C'est ça.
Alors, c'est un problème de ne pas savoir. Si les mamans savaient, et c'est ce que nous voulons appeler à la reconnaissance aujourd'hui, si les mamans savaient que Dieu avait déjà planifié l'eau dans le lait maternel, les mamans n'allaient pas s'inquiéter. Dans le lait maternel, plus de 85%, c'est de l'eau. Plus de 85%.
Ah bon?
Le reste, ce sont des protéines, des vitamines, des lipides, mais déjà plus de 85%, c'est de l'eau. C'est-à-dire que quand l'enfant a pris le lait maternel, il a déjà bu suffisamment et sa soif est étanchée et il n'a pas besoin d'autre eau. Ça, c'est l'eau que Dieu a déjà planifiée lui-même dans le lait maternel. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, l'enfant boit régulièrement de l'eau à partir du lait maternel. Donc, quand la maman allaite l'enfant, elle donne de l'eau.
Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter l'eau minérale.
Il en a déjà suffisamment, plus de 85%. Donc, vous voyez que le lait maternel, c'est plus de l'eau que d'autres nutriments. Et Dieu savait que l'enfant avait besoin de beaucoup d'eau par rapport à d'autres nutriments chaque jour. C'est ce que Dieu a prévu ça.
Bien, on va accueillir les auditeurs qui sont déjà en ligne. Eminent Mwanda de Bukavu et Bernard de Kikwit. Eminent, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour aux invités. Bonjour, la dame Naomi. Et partout, tout le monde est en train de nous suivre en ce moment. C'est tout fait.
Bien, quelle est votre question par rapport à l'allaitement maternel?
Ma première question est de savoir, monsieur Jordi, après combien de temps un nouveau-né doit-il prendre du lait maternel? Juste après l'accouchement, l'enfant a le droit de prendre le lait maternel après combien de minutes, combien de temps, combien de jours? Ça, c'est ma question. Mais je pense que pour encourager l'allaitement, il fallait que la population soit suffisamment sensibilisée. Et vous venez de dire un constat que les femmes, beaucoup de femmes disent qu'il fallait que l'enfant prenne de l'eau, ainsi de suite. Je prends l'exemple de mon village natal à Chabunda, ici aujourd'hui, où l'enfant, juste après 3 mois, on va commencer à lui donner de foufou, comme un grand métier, il va commencer à manger. Et je crois que ce genre de comportement, les gens le font parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps. Moi, je suis en train de condamner à un certain niveau le ministère de la Santé parce que c'est ce ministère-là qui devrait réellement égayer les habitants. Et beaucoup de maladies ici d'une mauvaise qualité d'allaitement doivent être vraiment envisagées. Et ce qui pourrait être tenu responsable quant à ce que le ministère de la Santé publique. Et maintenant, pour chuter, monsieur, je dis, est-ce que l'enfant qui n'a pas bien subi, il y a les enfants juste après l'accouchement, la maman décède. Est-ce que les autres moyens alternatifs là que les familles font, soit les médecins font, est-ce que peuvent arranger et sont bien de donner celle-là qui n'a pas bien, qui n'est pas vraiment la mère originaire de l'enfant, de continuer à l'allaiter, ou soit il est normal de soumettre à l'enfant là qui a perdu sa maman juste après l'accouchement à d'autres moyens.
Le lait artificiel, par exemple. Par exemple, oui, donner le lait artificiel. Merci beaucoup. On va donner la parole à Bernard des Kikuites. Bonjour Bernard.
Bonjour à la radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs. D'après moi, je voudrais un peu vraiment intervenir sur ce que celui qui vient d'achever, mon précédenteur qui vient de terminer. Il y a un peu vraiment beaucoup de choses ici, surtout dans notre vie de Kikuites. Nous avons déjà remarqué autant de mamans. L'enfant n'a pas encore même été même 5 mois, même 4 mois. Vous voyez un peu vraiment, l'enfant commence, on commence à lui donner les bouillies, on commence à lui donner encore de la nourriture, on commence à lui donner autant de l'eau. Un peu vraiment, cela un peu vraiment provoque tant d'ennuis, tant de maladies au milieu des petits enfants ici. Ça me fait un peu vraiment aussi mal dans les côtés de laquelle je suis. Je suis pasteur aussi, je vois aussi ce qui se passe aussi au niveau des peuples. Il y en a aussi ce que j'avais un peu vraiment demandé, aussi à ceux-là qui se trouvent un peu sur notre plateau, les invités. Il n'y a plus un peu moyen de mesure à prendre aussi auprès des peuples congolais, afin que les peuples congolais ne puissent pas un peu vraiment à faire éteindre un peu les enfants pour ne pas un peu vraiment les couper à ne pas quitter un peu vraiment que les mois ici un peu vraiment qu'on a été selon la santé, si les mois ici arrivent à partir de 6 mois, 4 mois, l'enfant pourrait un peu vraiment commencer un peu vraiment aussi un peu à manger, permettez-moi s'il vous plaît, pas à manger comme tel, mais que l'enfant continue d'avoir été attêté jusqu'à 6 mois. Cela pourrait faire mal, faire du bien. Mais il y en a tant qui ne fait pas un peu vraiment ce que la santé ou bien les autorités sanitaires demandent pour les petits-enfants. Moi, d'après moi, la question est la suivante. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre sur les peuples congolais, c'est tous les mamans qui ont des petits-enfants? Un peu qui est parce qu'il y en a même d'autres mamans qui n'ont pas peur à mesure de quitter l'enfant à partir jusqu'au niveau de 6 mois et ce qu'on sort. Les mesures qu'on peut prendre afin qu'on puisse vraiment améliorer un peu vraiment la santé à nos enfants que nous avons sur la scène. C'est ce que j'avais un peu vraiment poser comme la question.
Merci Bernard de Kikuites pour toutes vos questions et préoccupations. Nous parlons aujourd'hui de l'importance de l'allaitement maternel. Madame Marie Ludwine Bala, vous avez la parole.
Merci beaucoup à Emino et à Bernard pour leurs très intéressantes questions. Je commencerai peut-être par la première question de Emino relative à la durée après laquelle on devrait mettre un enfant au sein. L'OMS et l'UNICEF recommandent de mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit la naissance. Donc, idéalement, dès que le bébé sort du ventre de sa mère, on le pose sur le ventre de sa mère, et on accompagne la mise au sein. Il y a des soins qui pourront être faits à cet endroit-là. Pas besoin de séparer la mère et l'enfant pour les faire. Maintenant, il y avait beaucoup de commentaires aussi et des suggestions. Par rapport à l'enfant qui est né orphelin, si on peut dire comme ça, s'il a perdu sa maman à sa naissance, c'était la seconde question de M. Éminent.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il confier l'enfant à une mère nourricière ou le soumettre au lait artificiel?
Ce serait la recommandation idéale parce que ça permettrait à l'enfant de bénéficier du lait maternel. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut avoir des maladies. Dans l'idéal, il faut quand même tester la mère, voir qu'elle elle remplit les conditions qu'il faut pour allaiter un enfant qui n'est pas le sien, si elle souffre de VIH, qu'elle soit mise sous traitement et qu'on soigne aussi l'enfant. Mais c'est vraiment faisable, c'est tout à fait faisable. Mmh. Si aucune de ces options, nous n'avons malheureusement pas de banque de lait en RDC, si on n'a pas ces options-là, vraiment le last resort ou le dernier recours, ce sera l'utilisation des substituts de lait maternel pour nourrir l'enfant qui a perdu sa maman à la naissance. Pour ce qui est de la question de Kikwit, de Bernard, de Kikwit, c'est malheureusement un constat. Papa Sabouni l'a relevé, on a 40% d'enfants qui ne sont pas allaités exclusivement au sein jusqu'à 6 mois, et cela pour raisons diverses. Il y a des tabous, il y a des femmes qui doivent retourner au travail, il y a aussi la méconnaissance des bonnes pratiques. Et le gouvernement fait déjà il y a déjà quand même des mesures qui existent pour les femmes qui travaillent. Papa Sabouni y reviendra. Peut-être qu'il y a des mesures supplémentaires qui pourraient être prises. Par exemple, ce sont des femmes qui sont dans des entreprises. On pourrait leur permettre d'avoir des espaces d'allaitement. Et pourquoi pas?
Mais généralement, une femme qui accouche, elle a droit à un congé de maternité pour exactement s'occuper exclusivement de son bébé.
Oui.
C'est on combien a... 3 à 4 mois, je pense.
C'est 14 semaines.
14 semaines.
Voilà.
Et après ça, quand il retourne au travail, il doit bénéficier d'un temps pour retourner rapidement à la maison et s'occuper du bébé.
Oui. Normalement, je pense qu'elles ont ce qu'on appelle une heure de tétée. On a des organisations déjà aujourd'hui qui donnent 6 mois de congé maternité. Ça reste à faire le plaidoyer pour que beaucoup de gouvernements y adhèrent aussi et l'adoptent. Mais au-delà de ça, les femmes ont besoin d'appui, parce qu'il a parlé de mesures que le gouvernement pourrait prendre. Mais les femmes ont aussi besoin d'appui familial. On a besoin du soutien du conjoint, du soutien des aînés de l'enfant, des parents qui sont là pour dire, oui, tu es fatigué, tu peux exprimer ton lait. On va le garder à la maison pendant que tu es au marché, on va allaiter l'enfant à ta place. On peut l'aider à faire certaines tâches ménagères pour qu'elle aussi ne se sente pas submergée par la charge de travail, plus la charge du bébé qui incombe à cette dame-là. Donc, au-delà des mesures du gouvernement, chacun doit pouvoir faire sa place. Merci à Radio Okapi de nous offrir un espace justement de sensibilisation et de promotion de ces pratiques-là, parce que chacun a un rôle. Je ne sais pas que le rôle de la femme c'est ou que ça du gouvernement seul pour pouvoir parvenir à cet objectif de 80%.
Papa Sabouni, revenons d'abord à la question, à l'affaire de banque de lait. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir, pourquoi on n'a pas de banque de lait ici? Et bon, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une banque de lait maternelle?
Ah, une banque de lait nécessite des équipements. Et jusqu'à ce jour, d'abord, avec les banques de sang, on a des problèmes pour garder le sang. C'est déjà un souci. Il y en a qui meurent aujourd'hui par manque de sang. Alors, une banque de lait nécessiterait aussi un équipement
approprié pour bien préserver,
mais aussi des personnes qui acceptent d'être volontaires pour aller garder le lait dans cette banque. Parce que pour la banque de sang, vous voyez qu'il y a des volontaires, des donneurs de sang qui se donnent régulièrement à apporter leur sang dans les banques et gratuitement. Alors, les banques de lait supposent aussi qu'il y aura des femmes qui vont commencer à donner leur lait maternel. Le lait. Mais l'idéal, c'est d'abord aider les mamans qui ont les enfants, qui mettent au monde, d'allaiter d'abord leurs enfants. Ça, c'est d'abord la première priorité. Toutes les mamans qui mettent au monde peuvent allaiter leurs enfants, la proportion des enfants dont les mères décèdent à la maternité est très, très faible. C'est-à-dire que les 40% des enfants qui ne bénéficient pas de l'allaitement maternel exclusif, ce n'est pas que leurs mamans sont décédées. La plupart, les mamans sont en vie, mais elles ne le font pas. Elles donnent autre chose tout en étant en vie. Elle a mais son
il
sein.
Il semble qu'il y a des mamans qui veulent pas pour bien garder leur poitrine ferme.
Oui.
Et préfèrent ne pas donner le lait maternel.
Ça, c'est une idée que nous retrouvons quand on pose des questions aux jeunes mamans particulièrement.
Oui.
Qui veulent garder la forme des seins. Mmh. Mais elles oublient une chose. C'est pour monsieur des connaissances. Elles oublient que la forme des seins est un problème physiologique. Ça veut dire que c'est avec le temps, le cycle de la vie fait que le sein a une forme X. À 10 ans, à 15 ans, la forme change. À 20 ans, la forme change.
Ça ne peut pas rester ferme tout le temps.
Et à 45 ans,
oui,
c'est une autre forme. Et nous expliquons cela avec les deux guerres mondiales. La guerre, la première guerre mondiale, c'est la guerre de 40-45. Plutôt de 14-18. Là, les seins ont une forme entre 14 ans et 18 ans.
Et 18 ans.
Mais quand nous allons dans la deuxième guerre mondiale de 40-45, les seins commencent à changer de forme.
Oui.
Qu'on ait allaité ou non, même au couvent, après 45 ans,
ça change
les seins de la sœur qui était venue au couvent à 15 ans, on ne verra plus le même sein à 45 ans. Donc ça va changer de forme. Ce n'est pas qu'on a allaité. Donc, une femme qui allaite, le sein ne va pas changer de forme puisqu'elle est en train d'allaiter. Plutôt, ça lui permet de garder son corps normal, tout en sachant que ne pas allaiter correctement peut entraîner même le cancer du sein, peut entraîner le cancer du col, peut entraîner le cancer des ovaires, le cancer de l'utérus, qui sont des conséquences liées au fait que la maman n'a pas bien allaité correctement. Et là, nous perdons la maman pour rien, elle va mourir d'un cancer qui était évitable. Et donc, ne pas allaiter puisqu'on veut garder la forme, c'est vraiment une erreur monumentale puisque le sein changera toujours de forme, même si on allait.
Avec le temps, oui. Alors, appelez-nous, nous demandons à toutes les mamans qui nous écoutent, vous avez des bébés, appelez au 081-82-82-827. 081-82-82-827. Appelez à ce numéro pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Alors, il y a eu une autre question, par exemple, pour les femmes qui travaillent. Elle a bénéficié d'un congé de maternité, mais après, il faut retourner travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire pour continuer à allaiter son bébé? Faut-il extraire le lait maternel, garder dans un biberon, ou tout simplement utiliser et acheter le lait artificiel?
Effectivement, il est prévu un congé de maternité pour les mamans qui travaillent. Même pour les mamans qui ne sont pas travailleurs, on a trouvé des mamans qui n'allaitent pas. Donc le problème de l'allaitement, ce n'est pas seulement lié au travail. Mais l'an 2023, nous avions pour thème permettre à l'allaitement agir en faveur des parents qui travaillent. On a mis l'accent sur ces parents pour les aider, car il y a deux possibilités. Quand vous avez déjà fini le congé de maternité de 14 semaines, la première possibilité, c'est venir avec l'enfant au lieu de travail. Et là, on cherche un coin d'allaitement au lieu de travail.
Est-ce que ça existe?
Là, c'est l'entrepreneur qui doit chercher ce coin pour favoriser l'allaitement, puisque nous devons tous soutenir, encourager et promouvoir l'allaitement maternel.
Et pendant que madame travaille, qui va garder son bébé?
Alors, cette possibilité va maintenant demander à cette maman de venir avec une aide, gardien d'enfant, qui vient au service avec la maman. Mais la deuxième possibilité, si on ne sait pas venir avec l'enfant, avec les conditions de déplacement, un enfant qui est encore fragile de 3 mois, on peut garder l'enfant à la maison, et à ce moment-là, la maman va faire ce qu'on appelle l'expression du lait. Et cette expression, on ne va pas mettre le lait dans les biberons, mais c'est plutôt dans une tasse. Sachant que l'estomac de l'enfant est trop petit, il a juste besoin d'autour de 100 ml pour un repas, donc la maman peut exprimer même 2-3 tasses. Il met dans chaque tasse 100 ml, 100 ml, 100 ml. Et pendant que la maman est au service, chaque 3 heures, on peut donner une tasse de lait à l'enfant. Et une fois que la tasse a été entamée, même si elle n'a pas été terminée, on la met de côté. Et au prochain repas, on prend la deuxième tasse. Et cet enfant, on n'a pas besoin de réfrigérateur pour ça.
Oui.
À la température ambiante.
Il y a aussi les conditions hygiéniques.
Oui, à la température ambiante, une fois qu'on a mis le lait dans une tasse, il faut seulement mettre un couvercle pour se rassurer que le milieu ne sera pas
infecté.
Donc, avec une tasse bien couverte, facilement, le lait peut faire 8 heures sans être détérioré. Donc, si la maman a laissé son lait à 8 heures, elle peut revenir à 16 heures et l'enfant a bénéficié de l'allaitement maternel pendant que la maman était absente. Et il est prévu pour la RDC, aujourd'hui pour les mamans qui travaillent, de venir en retard d'une heure. Comme le travail commence
à 8h30,
la maman peut venir à 9h, 9h30 et n'a pas de problème. Et si le service prend fin à 16h, la maman qui allait, elle a le droit de quitter à 15h plutôt que les autres.
Est-ce qu'elle n'aura pas de problème avec son employeur?
Non, c'est-à-dire les employés en RDC, ils ont déjà des dispositions qui sont reconnues par la loi. Il faut laisser à la maman une heure avant pour entrer, mais aussi venir une heure après par rapport à... Donc au lieu de faire 8 heures de travail, la maman peut faire 6 heures. Elle a une heure en retard et une heure de départ avant.
D'accord, elle est temps de s'occuper de son bébé. Oui. On va accueillir les auditeurs. Blaise Saïdi est à Kisangani, Thomas aussi dans la même ville. Et Papi Mboyo nous appelle Mbanaka. Chères dames, mesdames, vous nous écoutez à travers le pays, le standard est ouvert. On aimerait écouter aussi les dames qui interviennent pour parler, pour poser des questions ou donner leur témoignage. Le standard est déjà ouvert. 081-82-82-827. Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour.
Bonjour, une fois de plus, cher jeudi, bonjour aux invités.
On vous écoute.
Je vais commencer d'abord par une petite rectification à ce qui concerne l'invité lorsqu'il a parlé de la guerre mondiale. 40-45, non. C'est 39 à 45. 39 à 45. Voilà, cher jeudi. La promotion de l'allaitement maternel est une stratégie essentielle pour garantir la santé et le bien-être de l'enfant et de la mère. Elle représente des avantages sanitaires, économiques et sociaux. Voilà, je dois aller juste pour laisser le temps à d'autres personnes, mais je dois aller tout juste à des questions, cher jeudi. Voici la première question. Quels sont les obstacles qui peuvent freiner la promotion de l'allaitement maternel dans nos sociétés? La deuxième question, quelles sont les stratégies mises en place par, premièrement, le gouvernement congolais? Si je parle du gouvernement congolais, ici je vois le ministère de la Santé. Et deuxièmement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et la troisième question, pour dire, y a-t-il une différence entre l'allaitement maternel exclusif et mixte? Si oui, que les invités nous expliquent un peu à ce niveau-là, pour nous donner quand même une... Voici, je me limite à ces trois petites questions, cher jeudi. Merci.
Bien. Bien, merci beaucoup. On va donner la parole à Thomas, qui est aussi à Kisangani. Bonjour, Thomas.
Bonjour, bonjour, monsieur Jody. Bonjour aux invités, et une fois de plus à tous les auditeurs de la radio. D'après déjà, monsieur Tati, monsieur Jody, pardon, l'allaitement maternel est reconnu comme un élément, en tout cas, fondamental de santé que les épatiers, monsieur, aujourd'hui. En tout cas, c'est un droit pour un enfant, réellement, c'est recommandé. Les invités sont là, mais à peine pour le dire. Mais je m'en vais directement aux questions. La première question, comment bien positionner? Parce que l'émission ici est en pédagogie. Je pose cette question à madame l'invité. Comment bien positionner le bébé au sein? C'est la première question que j'aimerais poser à l'invité. Deuxième question, toujours à madame l'invité. Madame l'invité, il y a des stéréotypes là, liés à la culture. Et je ne sais pas selon lesquels il y a des croyances culturelles qui peuvent influencer la pratique de l'allaitement maternel. Je ne sais pas si, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez nous proposer, quelles soient en tout cas les croyances culturelles qui influencent la pratique de l'allaitement maternel. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, monsieur Jody, de façon concrète, la radio Capi fait sa part également. À part ce que la radio capte, quels sont d'autres types, en tout cas, de campagnes de sensibilisation qui seraient, en tout cas, plus efficaces pour promouvoir l'allaitement maternel, surtout à nos femmes? C'était ça, mes quelques préoccupations que j'avais, surtout à madame l'invité, étant donné qu'elle est appelait également une femme, monsieur. C'est aujourd'hui.
Bien, merci Thomas. Nous parlons de la semaine mondiale de l'allaitement. Quelle est l'importance de l'allaitement maternel exclusif? Papi Mboyo nous appelle depuis Mbandaka et Kangangenge, Pilipili Libende. Papi Mboyo, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Vraiment, c'est comme dire, vous semblez aussi à Mbandaka quand vous dites Thomas. Vraiment, c'est un thème propre à nous ici.
Coucou à tous les auditeurs de Mbandaka.
Oui, de prime abord, j'aimerais saluer les invités et aussi tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et il y a certaines observations qu'on peut faire là-dessus, M. Jody. Il y a des femmes qui ne veulent pas vraiment allaiter les enfants. Et ils donnent des diverses raisons. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que la ligne est des fois ça.
Oui, on vous capte. On vous capte très bien.
Ah, ok, ok. Donc il y a des femmes ici. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas allaiter. En donnant des raisons, en disant, peut-être ça va faire descendre le sein, ou bien ça va abîmer le sein. Et sinon, les jours du mariage, ou peut-être le mari pourra lui dégoûter parce qu'il attend un gros bébé qui serait son amour. Et des fois, il laisse les enfants. Comme ça, sans les allaiter. D'autres, quand l'invité a dit que les codes du travail, le gouvernement, une femme enceinte avant la maternité doit avoir les congés après. Mais c'est différemment, mais c'est aujourd'hui dans les organismes. C'est différemment parce que nous, on a travaillé avec une dame qui est venue avec, elle était enceinte, et en allant à accoucher après, on lui a remplacé le poste, on lui dit non, tu vois, ça c'est organisme, on n'a pas besoin de femmes auxquelles. Les maternelles sont en cours, donc sinon, ça nous donne des handicaps, et ça entrave le développement des mêmes jeux, donc, on vous remercie pour une enveloppe, et après, vous pouvez dégager. Et la femme a jugé, bon, de saisir la justice. Bon, après, on a dit que, bon, saisir la justice, ça va aller encore payer de l'argent, et somme tout, non. Elle a jugé, bon, de laisser tomber au travers de son mari. Mmh. Alors, d'après tout cela, il y a quand même quelques soucis à demander à madame l'invitée. La première préoccupation serait celle de savoir, dans ce genre de situation, les ONG qui ne veulent pas que les femmes mariées puissent accoucher pendant les services, qu'est-ce que l'État congolais prévoit pour cela, en cas de cette histoire? Ça, c'est de 1. Vous m'entendez?
Oui, allez-y. Deuxième question.
Deuxième question, quelles sont les conséquences des enfants qui n'arrivent pas, parce que d'après l'UNICEF, on nous dit qu'il faut qu'un enfant bénéficie de l'allaitement maternel pendant 6 mois. Et les enfants qui n'arrivent pas à finir, nos femmes aujourd'hui, généralement, des jeunes femmes n'arrivent plus, hein, vous allez pas me dire le contraire, n'arrivent pas à donner les enfants pendant 6 mois seulement le lait maternel. Jamais du tout. Et quelles sont les conséquences? Parce que, moi, je peux dire, je suis marié aussi. Ma femme n'a jamais fait arriver un enfant. On a 6 mois de lait maternel.
Qu'est-ce que votre
après
femme...
Mois, on donne, on donne à manger.
Qu'est-ce qu'elle donnait...
On donne l'eau normale.
Oui, je disais, quelle nourriture votre épouse donnait aux enfants à 3 mois?
On préfère donner aux enfants le stili qu'on appelle communément le chez nous ici.
Le et poisson.
Là, un peu, vous prenez la chair qui est blanche, oui. Et avec des foufous un peu mou. On donne le bébé. Et on lui fait de boire de l'eau aussi, de l'eau pure, un peu...
L'eau pure.
Traitée, on peut dire. Mm. Alors, on donne aux enfants. Alors, je demanderais à l'invité quelles seraient les conséquences, parce que nos enfants sont grandis comme ça. Je les ai aujourd'hui 4.
Vous avez 4 enfants.
Je n'ai pas vu les films parce qu'ils ont raté, ils ont raté, ils ont... Je n'ai pas vu ça. Alors, l'invité va nous donner quelles sont les conséquences, parce que moi, j'ai fait 4 maintenant, il n'y a eu aucun souci dans ce niveau de débat. Alors, troisième question.
Oui.
Troisième question. Troisième question, c'est de savoir, entre les dames qui allaitent les enfants, normalement, et celles qui ne l'allaitent pas, quelle serait la différence? Et pour chuter, M. Jody, pour finir, je demanderais, pourquoi est-ce qu'il y a certaines dames qui ne supportent pas allaiter les enfants? Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas de leur propre gré, mais néanmoins, quand elles se mettent à allaiter les enfants, la femme perd la santé, perd le poids. À quoi consiste cette
hémorragie? Bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais comme préoccupation si l'invité peut éclairer à l'antenne.
D'accord.
Merci aujourd'hui de m'avoir aussi associé à cet échange.
Merci à vous. Et Madame Esther nous appelle au moins cette fois-ci. Nous avons une dame. Madame Esther est en ligne depuis Goma. Bonjour. Bonjour, Madame Esther.
En fait, bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'avais un avis à placer, mais aussi une question
oui.
à notre invité.
Mm-hmm.
Moi, je suis maman et nourrice. J'ai des bébés, donc des jumeaux de 5 mois et demi.
OK.
Quand j'avais accouché, j'ai allaité durant 2 mois. Mais du fait que j'avais connu un problème de santé, les traumatismes ont fait que le lait a coupé. Je n'arrivais plus à allaiter mes enfants. Alors j'ai dû maintenant recourir au lait infantile. Mais la plupart des gens de mon entourage condamnaient cela et pensaient que c'est de moi-même volontairement. Que j'avais décidé de ne pas allaiter ses enfants. Et pourtant, j'avais ces soucis-là, mais je n'avais pas un autre moyen.
Vous n'arrivez plus à produire le lait, de lait.
Oui, oui, oui.
OK.
Maintenant, l'avis que j'allais maintenant proposer, c'est juste que lorsqu'on sensibilise les gens pour l'allaitement, il faudrait aussi montrer qu'il y a quand même d'autres aléas que les femmes allaitantes rencontrent. Puisque à part mon mari, je n'ai pas eu vraiment de soutien de mon entourage. Parce que chaque personne me disait, non, il faut juste forcer, essayer de donner seulement les tétés au bébé. Et lorsqu'il y aura scission, le lait va sortir. Et pourtant, j'avais même les tire-laits électriques, mais je n'arrivais pas toujours à produire. Pourtant, durant les 2 premiers mois, j'ai tiré le lait même jusqu'à arriver à avoir 500 millilitres. Et donc, il faut aussi sensibiliser ces cas, parce que nous, femmes allaitantes, il y a d'autres problèmes que nous traversons ou que nous connaissons, mais que l'entourage ignore. Et lorsqu'on sera en train de nous indexer, ce n'est pas une façon de nous aider quand on est femme allaitante. Maintenant, la question par rapport à l'allaitement, maintenant, si c'est mixte.
Oui.
Comme on a dit qu'il faut allaiter les enfants exclusivement durant les 6 premiers mois, moi, j'avais dû couper. Est-ce que je peux donner de l'eau aux enfants comme ils sont allaités avec les laits infantiles?
Bien, merci Madame Esther depuis la ville de Goma. Au Nord Kivu, on va accueillir Zawadi depuis qui est aussi à Goma. Bonjour Zawadi.
Bonjour, bonjour la Radio Campi, je suis à l'écoute très 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 bien.
Zawadi, il y a beaucoup de musique là où vous êtes. Est-ce qu'on peut réduire le volume de votre radio?
Ok, je me déplace, oui, oui. Parce qu'il y a des connexions, je me déplace.
D'accord, merci de vous déplacer. Il y a la musique là tout autour. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'allaitement maternel?
Maintenant quand même, hein?
Oui, oui, ça va mieux. Allez-y.
Ouais, je voulais tout juste vous demander quelles sont les mesures à prendre pendant l'allaitement d'un bébé, parce que nous, les hommes, nous avons ici femmes pendant l'allaitement. Bon, je ne peux pas tout définir si la radio capit, mais vous savez quand même les principes. Hein?
Lesquels? C'est quoi le principe? Merci d'être clair dans votre intervention.
Le principe est que, bon, allons-y un peu dans le vite des choses, je ne peux pas vous mentir aussi. Il manque que lorsque une femme allaite un bébé à 3 mois, 2 mois, mais son femme veut de lui satisfaire. Quelles seront maintenant les conséquences lorsqu'ils sont assemblés dans la maison?
D'accord, vous voulez dire si une femme peut avoir des rapports sexuels pendant qu'elle allaite son bébé, c'est ça?
Ouais, exactement.
D'accord. Merci. On a bien compris votre préoccupation. Madame Marie-Ludvine Bala, vous avez la parole.
Merci à tous les auditeurs. Ça fait beaucoup de questions.
Oui.
C'est bon d'avoir tout cet intérêt. Peut-être que je vais commencer par Esther.
Oui.
Pour compatir un peu avec la situation qui lui arrive. Et c'est vraiment des choses qui arrivent effectivement lorsqu'on a. Lorsqu'une femme fait face à des traumatismes, il peut arriver que la lactation s'arrête. Malheureusement, dans nos systèmes de santé, le personnel de santé ne sont pas tous formés aux aspects psychosociaux des problèmes des femmes. J'ai eu à l'expérimenter dans des contextes de réfugiés où justement à cause de la guerre, une femme qui allaitait hier aujourd'hui, ça ne sort pas.
Ça ne sort plus à cause des traumatismes, l'insécurité et tout
ça. Exactement. Donc du coup, elle a besoin d'un appui qui va au-delà du simple conseil. Elle a besoin d'un accompagnement
psychologique
pour pouvoir la ramener à relacter. Donc je la comprends, malheureusement, elle n'a pas pu avoir accès à ces services-là. Et par rapport à sa question, bien entendu qu'elle doit donner de l'eau. Parce que les aliments qui sont vendus dans le commerce n'ont pas la même molarité, la même composition que le lait de femme. Donc, il faut qu'elle rajoute de l'eau à l'alimentation de l'enfant pour faciliter la digestion de ces deux jumeaux. Bon, il y a des questions qui m'étaient particulièrement adressées. Je crois que c'était par M. Thomas. Mais avant de répondre, j'aimerais aussi dire à M. Thomas que l'allaitement, c'est une question des femmes, des hommes, de tout le monde, en fait. Autant une femme peut expliquer à d'autres personnes la mise au sein, les positions pour positionner le bébé, autant un homme peut le faire. On a des personnels de santé hommes qui le font. Donc, par rapport à sa question, comment bien positionner un bébé, nous avons des points de contact qu'il faudrait que la femme qui allait ait avec son bébé. Le premier, c'est le coude. Il faut que la tête de l'enfant repose dans le creux du coude de la mère. Il y a la paume de la main de la mère qui doit tenir les fesses du bébé. Question que la colonne vertébrale, malheureusement on est à la radio, la colonne vertébrale
de l'enfant, ok.
Reste droite. Maintenant, le bras de l'enfant, bien sûr, il est derrière. Et le ventre de la mère et le ventre de l'enfant doivent se toucher.
Il faut maintenir ce contact, cette chaleur. Là.
Voilà. Et puis, que le bébé regarde sa mère. Il faut que la mère puisse voir, pour puisse avoir le regard sur son enfant. Ça, c'est question de la position du bébé. Maintenant, à côté de la position, et c'est souvent ce qui joue chez les jeunes filles qui pensent que les seins vont tomber. Effectivement, si on positionne mal le bébé sur le sein, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur le fait que l'enfant va tirer le sein. Mais si, justement, on tient le bébé comme je viens de le décrire, c'est le bébé qui va vers le sein. Et ce n'est pas le sein qui va vers l'enfant. Donc là, ça aide la mère à la fois à protéger son dos et aussi à protéger son sein. Et son enfant prend mieux le lait en même temps. Donc, j'avais également une question par rapport aux croyances et aux stéréotypes liés à la culture.
Oui.
Je crois que la dernière question posée par Zawadi est déjà l'un des stéréotypes qu'on rencontre souvent. Quand une femme recommence à avoir des rapports sexuels, pour certains, ça gâte le lait. Donc, souvent, c'est l'une des causes de cessation de l'allaitement du bébé. Il y a aussi parfois, si elle a une nouvelle grossesse, on pense que c'est incompatible avec l'allaitement et on arrête d'allaiter. En dehors de ça, on en a parlé plus haut, les gens pensent que l'enfant va avoir soif. Il a soif, il a besoin d'eau.
C'est un être humain, tout ça.
Voilà, donc tout ça, c'est autant de stéréotypes. Et comme Papa Sabouni l'a dit, le lait est constitué à majorité d'eau. Et il faut savoir aussi que le lait évolue pendant une tétée. Ça signifie, au début de la tétée, le lait est liquide, il est quasiment transparent. C'est justement pour étancher la soif. Et vers la fin de la tétée, le lait est plus épais et il est plus crémeux. Donc c'est là que l'enfant se rassasie. Donc ça aussi, si toutes les mères le savent, elles vont se dire, ok, c'est très bien fait, on a de l'eau et après on mange, donc l'enfant est satisfait. Et par rapport à ces stéréotypes, ni les rapports sexuels, ni une nouvelle grossesse...
Ça n'aura aucune incidence sur la qualité de l'air.
Non, ça n'a pas de contre-indication, ce ne sont pas des contre-indications à l'allaitement. Bien sûr, il faut s'assurer que la femme enceinte reçoit suffisamment de nourriture à bébé pour rester en bonne santé.
Elle doit être bien nourrie.
Voilà.
On dit souvent qu'elle doit prendre beaucoup de thé, boire beaucoup, tout ça. Est-ce que tout cela, c'est vrai?
Peut-être pas de thé. Le thé rouge, par exemple, non. Mais elle doit boire beaucoup d'eau. On le recommande. Elle doit manger très diversifié. Et elle
beaucoup de sauce, tout ça, pour produire plus de lait.
Tout ce, c'est ce qu'on entend. Tout ce qu'il faut pour avoir beaucoup d'eau, mais pas la bière, parce que des fois on nous dit la bière ça aide à avoir le lait. Mais il faut savoir que l'alcool ça passe dans le lait. Donc si on boit de l'alcool et qu'on allait son enfant, et ben l'enfant il sera sous. Donc ça il faut que les mères le sachent aussi.
Et bien, et puis Papi Mboyo de Mbandaka il dit qu'il a 4 enfants. Et sa femme a mélangé, n'a pas donné le lait maternel exclusif, mais ses enfants sont bien, tout ça. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui. J'y vais au Papa Sabouni.
Papa Sabouni.
Les conséquences de la malnutrition ne se voient pas à l'œil nu. Et puis, d'autres conséquences sont tardives. C'est-à-dire, tu peux penser que tu as réussi aujourd'hui, mais c'est plus tard que tu vas découvrir les erreurs commises. Mais si on voit les enfants qui ont été bien nourris et ceux qui ont été mal nourris, vous allez voir que le reste de leur vie est impacté par l'alimentation qu'on a connue au bas âge. Nos enfants qui font la malnutrition chronique, on ne les verra pas à l'hôpital. Non. Non, la malnutrition chronique, c'est une croissance au ralenti. L'enfant est en train de grandir, mais au ralenti. Il n'a pas la même croissance que les autres enfants, la croissance qui est harmonieuse. Ce qui fait qu'à déjà à 2 ans, quand d'autres enfants, un garçon à 81 cm de taille, lui, il est en dessous de 81 cm. Et la fille qui devait avoir 89,3 cm, elle a moins de 79 cm. Ce qui fait que, déjà à cet âge-là, l'enfant est dans un état où le reste de sa vie sera affecté, et sur le plan intellectuel, ça va affecter son intelligence et même sa force physique. On a trouvé même chez des filles à l'âge adulte le bassin rétréci, qu'on ne peut pas voir à 2 ans, qu'on ne peut pas voir à 4 ans.
Tout ça, c'est lié à
la malnutrition chronique.
Okay.
Donc, ne pas allaiter son enfant correctement, vous pouvez ne pas voir les conséquences dans l'immédiat, mais plus tard, c'est l'enfant qui va en payer. Et donc, nous sommes en train d'encourager les mamans, les parents, d'allaiter les enfants correctement, surtout que ça ne coûte rien. C'est une alimentation avec une ressource naturelle, renouvelable.
Okay.
On n'a pas besoin.
Mais il y a des mamans qui disent, le lait ne sort pas, j'ai tout fait,
Non, la production du lait est liée à 2 éléments.
Lesquels?
Il faut que l'enfant tête et que la maman soit disposée aussi à allaiter. Parce que si elle n'est pas disposée à allaiter, le lait ne va pas sortir aussi.
Il y a aussi la question des traumatismes.
Oui. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'une maman stressée, parmi les remèdes au stress, c'est l'allaitement aussi.
Ok.
Elle doit allaiter son enfant et ça va l'aider aussi à se déstresser.
Bon, le sujet est tellement intéressant, mais on n'a plus de temps. Donc, désolé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Madame Marie-Ludwin Mbala, spécialiste en nutrition à l'UNICEF, merci. Et nous disons aussi merci à Monsieur Damien Sabouni, chef des divisions, chargé de la communication au programme national de nutrition Pronanut en sigle. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Deb Sevita a été à la mise en onde. Naomi Moutokier a assuré la coordination et la réalisation. Patrick Yassongwa a assuré les lives sur les plateformes digitales des radios Okapi. Jody Daniel Kacham a été au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.